Bonsoir et bienvenue au programme du studio Kalangu. Dans un instant, le journal en français. À la présentation, je suis Rafika Taher. À la une, le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, est au Bénin hier et aujourd'hui pour une visite. L'objectif est de raffermir les relations entre les deux pays à la veille de l'exportation du pétrole brut nigérien vers le Bénin à travers les pipelines. Des individus en possession d'armes ont été arrêtés à Agadez. Vous suivrez dans ce journal le procureur sur le permis du port d'armes et la détention d'armes de guerre. Et dans la partie magazine, nous ferons un zoom sur le métier d'une femme vendeuse de café dans la ville de Dosso. Commençons cette édition hors de nos frontières. Le président nigérien Bazoum Mohamed effectue une visite en République du Bénin depuis hier. Ce déplacement du chef de l'État nigérien vise à renforcer et harmoniser les relations économiques entre les deux pays en adoptant de nouvelles stratégies. Le président de la République, Mohamed Bazoum, au micro de nos confrères béninois.
J'ai décidé de rendre cette visite au Bénin pour réitérer au président Talon et au peuple du Bénin l'engagement du Niger de toujours, mais fortement renouvelé, de faire en sorte que, plus que jamais, l'économie de nos deux pays soit complémentaire. Nous avons pris des options au Niger de caractère stratégique, qu'il est le port du Bénin, il est le port du Niger. La route qui part de Cotonou à Parakou jusqu'à Malanville, c'est la route du Bénin, mais en grande partie, c'est la route du Niger. Nous avons décidé, nous, que nous évacuons notre pétrole à partir du port de Cotonou, c'est normal, de façon à conforter cette relation. Et j'ai dit que cet engagement que nous avons pris, c'est un engagement irrévocable. Et nous ferons toujours en sorte que notre relation soit harmonieuse et profitable à nos deux pays. Et j'ai dit au président Talon que nous allons nous comporter les uns à l'égard des autres, de façon à éduquer nos populations respectives pour qu'elles comprennent justement le caractère stratégique de cette relation.
Retour au Niger, le banditisme de la région d'Agadez demeure une préoccupation des autorités. Ce banditisme est accentué par la détention et surtout la circulation d'armes pour la plupart illégales. Malgré les efforts déployés par les forces de défense et de sécurité, la situation est difficile, selon Mokhtar Henry, procureur près le tribunal de première instance d'Agadez. Il est au micro d'Anissi Karim.
Quand on prend la région d'Agadez, beaucoup de personnes sont malheureusement armées, surtout les AK-47 qui constituent des armes de guerre. Et c'est avec ces armes que les gens coupent les routes. De façon générale, les autorisations que le ministère de l'Intérieur accorde, c'est pour la détention et les ports d'armes, pour protection donc des personnes privées. Il s'agit des PA, d'un calibre qui ne dépasse pas généralement 6 mm. Et c'est des armes que les gens doivent garder avec eux à la maison pour leur propre protection. Ça, c'est le permis de détention d'armes. Ceux qui disposent de ces permis, vous allez les croiser en déplacement avec ces armes. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a une différence entre le permis de détention et le permis de port. Et ça cause un problème. C'est une détention illégale. Mais comment faire la différence entre les bandits qui coupent les routes, qui interceptent les gens en brousse, et les personnes sages qui ont les mêmes armes et qui circulent en brousse avec? C'est difficile. Quand des personnes sont interceptées en brousse avec les armes de guerre, elles sont automatiquement arrêtées et transférées au niveau de la gendarmerie pour enquête.
3 personnes tuées, 1 blessé et des animaux emportés, c'est le bilan de l'attaque hier soir du village du Goulbal dans la commune rurale d'Anzourou, région de Tillabéri. L'attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés à bord de 6 motos, selon une source locale. Grâce à la prompte intervention des éléments de la garde nationale, les animaux ont été finalement récupérés, indique la même source. Un atelier de formation de 3 jours entrant dans le cadre de l'accès et à l'amélioration de la qualité de l'information dans les zones de conflit au Sahel a débuté hier à Difa. Il regroupe les acteurs administratifs, la société civile, des journalistes et des forces de défense et de sécurité de la région de Difa. Dr Kabir Sani, président du Conseil supérieur de la communication, dans des propos recueillis par Guidi Abdraman.
Dans les zones où sévissent les violences armées, les médias et les journalistes éprouvent de grandes difficultés à informer leurs concitoyens, notamment à travers la recherche, la collecte et la vérification d'informations sur les opérations armées, qu'elles viennent des forces armées nationales ou des groupes armés. Les médias et les journalistes pour leur part, sont des cibles privilégiées. Ils sont de fait en danger lorsqu'ils tentent de faire leur métier d'informer. En vue d'appréhender les obstacles qui se posent et les solutions envisageables, il a paru nécessaire et impérieux pour le Conseil supérieur de la communication d'organiser ces séries d'activités. Le système médiatique doit être perçu et abordé dans une interrelation entre l'ensemble des acteurs sociaux confrontés à la problématique et non pas strictement restreint au secteur des médias et aux journalistes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux autorités administratives, militaires et coutumières au haut niveau de la région, ainsi qu'aux professionnels des médias, aux acteurs de la société civile, aux magistrats, entre autres, pour réfléchir sur les mécanismes à même d'assurer l'accès à l'information vraie, en temps réel, respectueuse des règles éthiques et déontologiques.
À Ouagadougou également, depuis hier, 25 journalistes et de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest sont formés pour la deuxième session sur la prévention des conflits organisée par la Fondation Hirondelle. Cette formation vise à renforcer les capacités des journalistes à produire des contenus et gérer des médias et des rédactions dans les zones d'extrémisme violent. Martin Faye, modérateur de la formation, explique au micro de Fadel Alou.
Nous sommes dans une problématique majeure de notre sous-région. C'est les crises, l'extrémisme violent. On a tendance à dire que les journalistes en font trop ou n'en font pas assez. On veut faire de nous des journalistes citoyens, ça veut dire des patriotes, et arrêter d'être journaliste. Et bien sûr, tout cela demande qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse sur ce vécu professionnel, qu'on en tire les leçons, toujours dans l'optique de mieux servir les populations. La particularité de cette deuxième session, c'est que c'est une session très pratique. On a des intervenants que nous gardons toute la journée et qui, en plus de leurs interventions, nous font faire des exercices qui portent sur un aspect de notre vécu professionnel pour qu'on analyse notre comportement, qu'est-ce que nous faisons de bien, qu'est-ce que nous faisons de moins bien ou tout simplement qu'est-ce qu'il faut bannir dans notre pratique du métier.
Revenons à Difa, à Ngingimi, où les parents continuent à donner en mariage leurs filles alors qu'elles n'ont pas encore 18 ans, en dépit des sensibilisations des associations et autres agents de santé. Ce mariage des enfants a des conséquences néfastes sur la santé des jeunes filles, indique Madame Kaka Aïchatou Oumar, communicatrice à l'hôpital du district de Ngingimi. Elle est au micro de Maïna Abdoulaye.
Le mariage précoce a beaucoup de conséquences. Même l'islam n'a pas accepté le fait de marier une jeune fille qui n'est pas en âge. Elle doit avoir au moins 18 ans. Si elle n'a pas cet âge, c'est encore une adolescente. Mais à 18 ans, son corps est assez solide et formé. Mais si la fille, son corps ne répond pas, c'est très grave. On a reçu beaucoup de filles qui ont fait des hémorragies après un mariage précoce. On arrive à récupérer certaines, mais pour d'autres, elles ont eu besoin d'une transfusion sanguine. Toutes celles qui ont subi le mariage précoce, beaucoup souffrent dans leur foyer parce qu'elles sont innocemment naïves. Elles ne savent rien de la vie de couple. Très tôt, elles peuvent avoir la fistule. Et déjà avec la grossesse, si son corps ne répond pas, elle peut souffrir jusqu'à 9 voire 7 mois de grossesse avec un travail douloureux jusqu'à la destruction de son utérus. Ça aussi, c'est un problème.
Pour la sauvegarde de l'environnement des groupements féminins de Faya, un village situé à 12 km de Ngingimi sont engagés dans la sensibilisation des femmes sur l'importance de l'hygiène environnementale. Asmaou et Zara, deux présidentes des groupements, sont interrogées par Maïna Abdoulaye.
La propriété est très importante, même la religion le notifie, et surtout la propriété de l'environnement. Le manque de propriété peut semer des malentendus dans la maison, et la propriété permet aussi de préserver l'environnement. Et donc nous les femmes, nous devons préserver la propriété de nos maisons, car la saleté est cause de maladies. Il faut qu'on enlève les mauvaises herbes de nos maisons et qu'on comble les trous qui peuvent retenir l'eau sale, car cela provoque le paludisme.
La première des choses, nous devons aussi évacuer les déchets ménagers. Et il y a des endroits spécifiquement aménagés pour cela. Il y a aussi des caniveaux pour l'évacuation des eaux usées. Il faut éviter de les verser n'importe où et n'importe comment. Et ça, c'est un appel que je lance auprès des autres femmes.
L'Agence des États-Unis pour le développement international et l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ont lancé un nouveau projet au profit de 1 500 agriculteurs entre 2022 et 2025 basé sur la pratique ancestrale de l'agriculture et de l'élevage. Ce projet vise à augmenter de 30% les revenus des opportunités commerciales autour de la chaîne de valeur du fourrage, à entraîner une augmentation de 25% de l'utilisation des technologies d'alimentation animale et une augmentation de 30% de la consommation d'aliments pour animaux. En football, dans le cadre des préparatifs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN U23 Côte d'Ivoire 2024, la Fédération nigérienne de football décide de suspendre les 16e et 17e journées du championnat national pour permettre au staff de bien se préparer pour la rencontre du 22 mars à Niamey contre le Soudan. Zakaria Yaou Ibrahim, entraîneur des U23 du Niger, au micro de Salamatou Kadri.
C'est vraiment pour permettre aux sélectionneurs de mieux préparer les échéances à venir en vue de faire de très bons résultats qui nous permettraient effectivement de nous qualifier pour la phase finale et de la Coupe d'Afrique U23 et celle de Senior Côte d'Ivoire 2023. Nous comptons l'aborder vraiment avec beaucoup de sérénité, dans un bon état d'esprit. C'est un match à aller ici à domicile. Il va falloir vraiment tout mettre en œuvre pour être physiquement, techniquement, tactiquement et surtout mentalement être présent dans ce match parce que et tout peut se jouer sur ce match aller-là. Vraiment, on a envie de tout donner pour faire déjà un pas vers l'avant qui nous qualifierait sans nul doute. C'est une équipe que nous respectons parce que nous sommes tous qualifiés pour ce 3e tour. Donc, c'est pas une équipe à négliger. Nous savons que nous avons les atouts. Nous savons aussi quelque part que nous avons certainement quelques difficultés. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de mettre les joueurs au vert. Nous sommes à l'internat depuis hier et vraiment pour finir nos dernières stratégies, prêts pour cette double confrontation.
Fatima Moumouni est une jeune femme vendeuse de pain et du lait à Dosso. C'est un travail qu'elle a hérité de son père, selon elle. Elle pratique ce métier depuis sa tendre enfance malgré son statut de femme. Elle pratique un métier dominé par les hommes et grâce à ce travail, elle arrive à subvenir à ses besoins. Elle est au micro de Nana Hadiz Hassan.
Comment est-ce que vous vous êtes lancée dans la vente du thé-café, un domaine généralement occupé par les hommes?
Voilà, ce métier de vente de thé, du café et du lait, c'est celui de mon père et c'est lui qui m'a initiée. Aujourd'hui, après son décès, je continue toujours à l'exercer. Je suis dans la vente depuis 1998. Jusqu'à présent, je continue. Cela me plaisait beaucoup, c'est pourquoi je m'étais engagée. Mon papa fermait la boutique pour aller à son travail. Et moi, quand on me disait d'aller à l'école, je partais réouvrir la boutique. C'est ainsi que j'ai abandonné l'école au profit de cette vente. Avant même son décès, il avait arrêté. C'est moi qui le faisais.
Quels sont les différents produits que vous proposez aux clients?
Je fais du pain accompagné de lait, des omelettes et de l'indomie. Dans cette époque où nous vivons, il n'y a plus de métier spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Tout métier qui est bénéfique, il faut s'y lancer et que Dieu nous en donne les bénéfices.
Est-ce que votre activité marche comme vous le voulez et quel type de clients vous recevez ici?
Des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards. J'ai beaucoup de clients, Dieu merci. Je viens ici à 4h30 et rentre chez moi à 14h. Je n'ai jamais eu de problème avec mon mari. Même avec les clients, je n'ai aucun problème. Nous sommes devenus comme des cousins. Nous nous taquinons et nous nous entraidons. J'ai plusieurs fois bénéficié de l'aide de mes clients car la plupart me laissent leur monnaie et me font plein d'autres choses. Dieu merci.
Vous êtes une femme qui a choisi un métier habituellement réservé aux hommes. Arrivez-vous à vous en sortir?
Les bénéfices que j'ai eus sont très nombreux parce que j'arrive à donner l'argent de condiment à ma mère. J'arrive à satisfaire beaucoup de mes besoins. J'entretiens mes enfants. Parfois, je mets même un peu d'argent de côté pour les besoins à venir. Aujourd'hui, il n'est plus question de rester les bras croisés. Toute femme qui a l'accord de son mari se doit de travailler.
Combien gagnez-vous par jour? Arrivez-vous à économiser?
Parfois, je gagne 20 000, 15 000. Quand il n'y a pas beaucoup de clients, je gagne 10 à 12 000 par jour. Avec ce que j'ai gagné, je pars acheter ce qui manque. J'élève l'argent des condiments et du pain. Le reste, je le mets de côté. Je ne peux que dire Alhamdoulilah, car grâce à ça, j'ai tout.
Nous sommes au thème de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Samira Rouafi à 18h15 pour la présentation du forum sur l'apport des groupements féminins pour les Nigériens. Mais avant, les éditions continuent. Dans un instant, place à Tarnan Foudé Ahmed pour le journal en Tamashek.